Chers amis, Hachem Alechem Tiahiou, les Horech Hamim Tovim, Shanim Nehemim. Nous poursuivons notre étude sur le livre exceptionnel du l'illustre maître Rabbeinu Shimshon Haim Nahmani, que son mérite nous accompagne. Nous sommes dans le Zera Shimshon, Parashat Shemot d'Arush Zayn. Que cette étude est dédiée à la refoua Shalema de Salomé Rachel Per Haya Bat Miriam, Alice Batimi, Jennifer Sarah Bat Jiji, Régine Malka, Esther Batmime, Vicharko, Shimon Bar Josephine, Vishalom Basimi, Charkul Hole Amo Israël. Ezelu Beshem Adonai, Ose Shamaim Varet. Donc le pasouk dit, Vatahar Aisha, la femme conçue et enfanta. Vatere Oto, Kitovu, elle vit qu'il était bon, Tov. Vatetsapeneu, Shelosha Irahi. Donc elle le cacha pendant 3 mois. Mais le yachla roda tefino, elle ne pouvait plus le cacher plus longtemps. Elle lui prit un berceau de jonc. Elle enduisit de bitume et de poids. Et elle mit dans ce berceau l'enfant. Et elle plaça le berceau dans les roseaux sur la rive du fleuve. Plus loin, il est dit, la fille de Pharaon descendit pour se baigner dans le fleuve. Et ses suivantes, la précédente sur la rive. Elle aperçut le berceau dans les roseaux. Elle envoya sa servante qui le prit. Elle ouvrit. Et elle y vit. Elle y vit l'enfant. Elle le vit. Et taïel est l'enfant. Veine, voici un enfant. Nahar boche, un garçon qui pleure. Tahmol ala va tomber. Elle a eu pitié de lui. Elle dit. C'est un enfant des Israël, des Hébreux. Le pauvre nous dit, l'Agmara, elle lui prit un berceau en jonc. Pourquoi a-t-elle choisi le bois de jonc et pas un bois de meilleure qualité, plus solide? C'est ce que l'Agmara demande. Rabbi Eliezer dit, de là, que les justes prennent plus garde à leur argent quand même. Haviv mamonam yoter migoufam. On retrouve la même idée qui a été mentionnée quand Yaakov revient pour récupérer des petits récipients. Elle enduisit de bitume et de poids. De bitume à l'intérieur et de poids à l'extérieur, afin que ce juste ne soit pas incommodé par la mauvaise odeur de la poix. Ça, c'est le Lachon Agmara. Les Tosafot, sur place, rapportent que le poids et le bitume étaient induits à l'intérieur du berceau, l'un sur l'autre. D'abord la poix, pour l'étanchéité, et au-dessus, le bitume, afin que Moshe ne soit pas incommodé par l'odeur. Mais de l'extérieur, le jonc, le bois, était brut, afin que personne n'y prête attention. En effet, le bois de jonc ressemble au bambou qui pousse dans le fleuve. C'est ça, tout ça, c'est Lachon Agmara et Lachon Atosafot. S'il en est ainsi, comment Rabbi Eliezer peut-il dire que le bois de jonc a été choisi parce qu'il était moins cher, et que les justes, ils prennent plus garde à leur argent qu'à autre chose. Le choix de Yocheved se porte sur ce bois uniquement pour que le berceau passe inaperçu, a priori. Lors de la vision du buisson, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, « Ve'ata lecha ve'esh lachacha el paro ve'otse et ami bene Israël mitzrayim. » Et maintenant, va, je t'envoie chez Pharaon, et fait que mon peuple, les enfants d'Israël, sortent d'Égypte. Le mot lecha, va, est construit, il ne dit pas lech, il dit lecha, avec un e, en suffixe, qui désigne la direction vers qui Moshe doit se diriger. De là nous apprennent Chachamim que si Moshe ne les délivre pas, personne d'autre ne sera en mesure de le faire. La question se pose, pourquoi n'y a-t-il que Moshe qui soit à même de les sauver? Alors, on pourrait dire, serait-ce par son mérite exceptionnel? Voilà que cette délivrance peut très bien se produire à une autre génération, par un homme aussi méritant, et autre que Moshe. Chachamim ne disent pas que Shmuel, le prophète Shmuel, avait autant de mérite que Moshe, Aaron et tous les Kohanim. N'est-il pas enseigné qu'à toutes les générations, il se trouve un tzaddik de la trempe de Moshe? Il ne s'est jamais trouvé d'homme comme Moshe. Il s'agit du niveau prophétique et de la qualité de son inspiration, mais non pas du mérite. De sorte que la raison pour laquelle la présence de Moshe est indispensable à la délivrance d'Israël se trouve ailleurs. Quelle est donc cette dimension particulière qui ne se trouve qu'en la personne de Moshe et qui est la clé qui ouvre les portes de l'enfermement et de l'oppression en Égypte? Pour pénétrer ce secret, il convient de comprendre le mystère de la puissance de l'empire égyptien et de la source de son pouvoir. Le mot Mitzrayim signifie les limites des mers, comme si que les contours de cette terre n'étaient que les mors d'un étau qui se referme sans cesse sur ceux qui y sont emprisonnés. Nul ne peut y réchapper. Cette maîtrise se trouve dans les 120 compositions du nom Elohim. En effet, le nom Elohim, c'est le nom qui se rapporte à la nature de la création, à la conduite naturelle de la création. C'est le nom de la création. Il est dit 32 fois lors de la création du monde, Bereshit bara Elohim, Vayomer Elohim. Ce sont les règles de la nature, de la création. Tout ce qui se passe en ce monde dépend de ce nom. C'est-à-dire tout ce qui est rationnel, naturel, les lois qui gèrent la réalité physique de ce monde dépendent de ce nom. Il y a 5 lettres dans le nom, donc ça fait 120 compositions. Comment on trouve les différentes compositions? Parce qu'il y a 5 lettres, alors on multiplie 5 que multiplie 4, que multiplie 3, que multiplie 2, que multiplie 1. Ça fait 520. Ce nom est celui de la création, celui qui définit les règles de cette création, de la nature, et qui en fixe les lois. Les règles de ce monde, de sa nature, se perpétuent à l'infini. Rien ne semble pouvoir changer ce mouvement perpétuel. Le monde se gère, agit de manière perpétuelle. Là réside la toute-puissance de l'Égypte et de sa domination, ce qui se traduit par la maîtrise des astres, des 12 signes du zodiaque, de leurs constellations, ce que nos maîtres appellent les mazalotes. C'est les mazalotes qui gèrent le monde. Le mazal de chacun particulier, comme celui global de l'ensemble des nations. Le Zohar considère qu'il y a 70 nations auxquels il faut ajouter Esav et Ishmael. Ils sont les chefs des nations, chacun est chef des nations, chacun dominant 35 peuples. L'un est à droite, l'autre est à gauche. Pharaon concentre en lui toutes les forces des 71 nations. L'ange protecteur de chaque nation s'appelle Elohim. De sorte que pour 71 fois Elohim, il y a 355 lettres, comme la valeur de Pharaon, 350. Le mot 355. 350, c'est le mot Shana. De ce nom dérivent 120 compositions. Pharaon, valeur numérique 355, ce qui signifie que Pharaon maîtrise 71 de ses compositions. Il en reste 49. Si nous disons qu'il y a 120 compositions, lui, il en maîtrise. Il en maîtrise 71, il en reste 49, qui font référence aux 49 lettres des 12 noms, des tribus. Moshe est âgé de 80 ans quand il se présente devant Pharaon. Shemonim Shana, comme s'il lui avait enlevé 80 des 355 lettres, qui font 16 compositions, de sorte qu'Israël en possède à présent 65, qui correspond au nom Ado plus loin Naï. 49 plus 16, ça fait 65. Il reste donc à Pharaon 275 lettres en sa possession. C'est pour cela qu'il leur dira, voyez le mal devant vous. Réo, kiraan, neget penechem. C'est là le secret du mot buisson. Hasséné. 55 pour Pharaon et 65 pour Israël. La qualité essentielle et indispensable que doit posséder celui qui est chargé de changer ce qui semble figé pour l'éternité est de se placer au-dessus de l'influence des as. Cette particularité d'exception est celle qui qualifie Moshe quand il est dit à son sujet « Vatere oto ki tov hu » Elle vit, sa mère, qu'il était « tov », qu'il était « bon ». Le mot « tov » renvoie à cette idée de bien parfait qui qualifie la lumière première de la création, le « or aganouz ». Comme il est dit « vayar elum ki aro or ki tov » Cette qualité aussi qualifie la lumière première qui après a été enfouie. C'est cette éminente lumière qui supplante la domination des as, qui permet l'ouverture vers le salut. C'est cela que dit Ochevet plus tard à la fille de Pharaon. Le mot voir va terrer, ayant pour valeur 601, correspond au mot Shechina, développé comme suit. Quand on écrit Shin, Kaf, Yud, Nun, He, ce mot a pour valeur 385. Les lettres intérieures, quand on écrit Shin, à l'intérieur il y a un Shin, Yud, Nun, le Yud, Nun, le Kaf, c'est un Kaf, Sophie, le Yud, il y a Vav Dalet, le Nun, Vav Nun, et le He, c'est un Yod, ça fait 216. À quoi correspond ce 216? C'est la puissance, Gevura, c'est la crainte, c'est la force du lion. Sa valeur numérique de 3 fois 72, qui correspond à 3 fois le nom Hesed, le nom de Dieu, correspondant à la valeur numérique de Hav, Shem Hav. La Shekhina, dans toute son ampleur, apparaît alors avec Moshe. Au sujet de Batia, Bat Paro, il est dit, Vatireu, elle le vit, lui, avec l'enfant. Vatireu est à Yeled. Et, ça vient ajouter, Vatireu, elle le vit, est à Yeled, avec l'enfant. Donc de là, on apprend, donc c'est, comment Chachamim disent qu'elle vit la Shekhina avec l'enfant? Parce que c'est ajouté. Parce qu'elle aurait dû dire, Vatireu, elle le vit quoi? L'enfant. Mais comme il dit, Vatireu est à Yeled, elle le vit, et il y a autre chose aussi avec, et l'enfant. Le « he » symbolise la Shekhina. Le mot « vateré » ou, à la fin du mot « vateré » qui s'écrit « vav, tav, resh, alef, he, vav », le « he » vav de la, en suffixe, le « he » symbolise la Shekhina et le « vav », la personne même de Moshe, c'est lui qui donne à la présence toute sa dimension et son ampleur. Moshe est appelé dans le Zohar « Ba'ala de Matronita ». La Matronita, c'est la suzeraine. Elle est la Shekhina, car il a su lier les deux dernières lettres du nom, comme nous l'avons dit. Il convient de rajouter à cela que le mot Shekhina renvoie aussi aux 600 000 âmes d'Israël, qui sont toutes liées à Moshe. Quand nous disons va-terre, si on écrit va-terre, tav, resh, aleph, si on écrit le aleph entier, aleph, lamed, p, donc on voit que le Aleph, il devient un grand Aleph. Aleph, ça fait référence à 600. Tav Resh, la valeur numérique de 600. Aleph, quand on l'écrit entier, donc ça signifie qu'il y a 1000. Ce 1000-là, c'est 600 000. Chacune de ces lettres, de ces âmes, est liée à Moshe, grâce à une lettre de la Torah. Moshe, lui, il est la globalité de cette Torah. Cependant, la question se pose, est-ce que cette ascendance que possède Moshe sur la nature s'applique aussi sur les eaux? Comme le disent les magiciens à Pharaon, nous voyons le sauveur d'Israël être frappé par les eaux. Et c'est pour cette raison qu'il lui conseille de jeter les garçons dans le Nil. Nous savons que Moshe ne pourra pas pénétrer en Eretz Israël, justement pour avoir frappé le rocher. Pour cette raison, Yocheved met place Moshe dans son berceau avant de le mettre sur les flots. Pourquoi ne se contente-t-elle pas de le jeter à l'eau comme tous les autres garçons? Et si elle avait une confiance absolue en Hachem, il aurait été sauvé. En effet, n'est-il pas dit que le fleuve rejetait les enfants des lieux sécurisés et qu'il se produisait pour eux de nombreux prodiges, comme le rapporte le Pirkei de Rabbi Eliezer? Yocheved savait que le mazal de Moshe n'avait pas de maîtrise sur la puissance des eaux. Et pour ne prendre aucun risque, elle préféra le déposer dans son berceau, là où le danger est certain. On ne peut compter sur le miracle. Là où il y a Makom Sakana, En Somchim Alanes. Là où il y a un danger certain, alors on ne peut pas s'appuyer pour qu'Hachem fasse un miracle surnaturel. Alors pourquoi avoir choisi un bois de moins de qualité comme le jonc? Elle aurait dû utiliser un bois plus solide, comme la Gemara l'a demandé. Cependant, nous avons dit qu'elle a fait ce choix pour que le berceau passe inaperçu et que personne ne lui cause du mal. Ce qui est a priori étonnant. Le mazal de Moshe est bon et personne ne peut le nuire, alors que de l'eau, il convient de le préserver. Donc elle aurait dû utiliser un bois plus solide et ne pas se soucier que l'on risque de l'apercevoir. C'est pour cela que Rabbi Eliezer justifie le choix de ce bois par le fait que les justes prennent garde à leur argent plus qu'à eux-mêmes. Comme Moshe ordonne à la mer de s'ouvrir pour que les enfants d'Israël la traversent, celle-ci refuse. Elle lui répond: « Devant toi, je ne me fendrai pas. » C'est alors qu'Akadosh Baruch Hu lui posa sa droite sur celle de Moshe, et la mer s'ouvrit, s'inclina. Devant Aaron, les eaux du fleuve se changent en sang. Devant Moshe, les lois de la nature se transforment et se produisent de nombreux prodiges. Et pourquoi ici la mer se refuse à s'ouvrir? L'ascendance que détient Moshe n'a pas d'effet sur les eaux, de sorte que l'ange des mers pense qu'il peut lui tenir tête. De tous les noms qu'on lui a donnés, le seul qui rentrera dans l'histoire est Moshe, qui traduit que son ascendance et son hégémonie s'appliquent aussi aux eaux. En effet, ce nom signifie celui qui a été extrait des eaux et de leur domination. Hachem ordonne à Moshe de dire à Aaron de frapper le fleuve. Rachid dit, étant donné que le fleuve avait protégé Moshe quand on lui avait jeté, ce n'est pas par sa main qu'il a été frappé, ni pour la plaie du sang, ni pour celle des grenouilles, mais par celle de Aaron. Mais a priori, cela ne semble pas exact. Ce n'est pas le fleuve qui l'a protégé, mais le berceau de Jean. Nous sommes bien obligés de dire qu'en fait, le berceau n'était d'aucun secours. Il n'avait aucune qualité pour préserver Moshe. Yocheved ne l'avait confectionné en bois de Jean que pour faire des économies. C'est donc bien le fleuve qui s'est chargé de la responsabilité de protéger Moshe. C'est pour cela donc que le fleuve ne sera pas frappé par Moshe, mais par Aaron. Baruch Adonai l'Olam. Amen et Amen.